Radio Scooping,
Patrick Modiano,
Jacques Chancel. Kilos, 3 livres importants à cet âge-là, 25 ans, la place de l'Étoile, la ronde de nuit, les boulevards de ceinture, le dernier, des prix, des honneurs et une consécration redoutable, très récente, grand prix du roman de l'Académie française. Une obsession dans votre vie, Patrick Modiano, la Seconde Guerre mondiale et très précisément l'occupation. Mais cette occupation, vous ne l'avez pas connue. Alors pourquoi voulez-vous sans cesse la ressusciter ?
Oh, c'est plutôt... c'est pas tout à fait l'occupation du point de vue historique, c'est plutôt... je m'inspire l'occupation pour décrire un espèce de climat trouble, et trouble comme il en existait sous l'occupation, mais ça n'a pas tellement de rapport avec l'occupation telle qu'elle a vraiment existé.
Enfin, nous parlerons des boulevards de ceinture. Vous avez obtenu le prix de l'Académie française et personnellement, je suis un peu gêné pour vous. Heureux parce que c'est un très grand prix, ce sont les honneurs, et peut-être gêné parce que si vous aviez obtenu le prix Goncourt, le prix Fémina ou le prix Renaudot, vous auriez eu un meilleur tirage. Or, le tirage, ce n'est pas une question d'honneur, c'est la liberté.
Oui, c'est... Oui, le prix de la... d'habitude, le prix de l'Académie française, c'était un prix qu'on décernait à des gens qui avaient le double de mon âge, enfin, des... ou pour consacrer une œuvre. Alors, c'est surprenant, c'est un peu surprenant qu'il ait donné à...
Un jeune. Vous êtes étonné ?
Oui. Oui, c'est surprenant. Enfin.
Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vous arrive ?
Il m'arrive pas. C'est pas tellement extraordinaire. C'est. De toute façon, ça n'influe pas tellement sur les livres à venir. C'est un peu.
Une péripétie pour vous ?
Oui, c'est un peu l'écume, mais ça ne change pas tellement ce qui est en profondeur.
C'est de la modestie ?
Oh non, mais ça ne peut pas modifier tellement ce qu'on veut écrire ou ce qu'on a envie d'écrire. C'est un peu l'écume de.
Mais vous êtes conscient maintenant, Patrick Modiano, que vous êtes interdit aux autres prix, ayant reçu le grand prix du roman de l'Académie française.
Oui, mais de toute façon, les choses ne pouvaient pas être autrement, je crois. Enfin,
quels auteurs voyez-vous pour les prix littéraires ? Vous savez que tout commence lundi avec le prix Goncourt.
C'est-à-dire que pour le prix Goncourt, je crois qu'il y a une espèce, il y a quand même une espèce de tradition pour le prix Goncourt. C'est quand même la tradition des frères Goncourt et du naturalisme. Alors, en général, ça couronne un livre de facture assez naturaliste, une tranche de vie ou bien...
Vous voyez un auteur, vous auriez un favori, vous ?
Ils ont établi une liste, je crois que...
Alphonse Boudard, par exemple
C'est-à-dire, ils sont... Je crois que les auteurs dont ils ont établi la liste, c'est un peu des auteurs qui ont tous cette espèce de facture un peu...
Michel Del Castillo. Avec Le Vent de la Nuit.
Oui, c'est une... C'est un peu dans la perspective du concours.
Puis Jean Carrière, on en parle beaucoup, L'Épervier de Maheu.
Tout ça, ce sont des romans qui sont un peu dans la tradition de l'Académie Goncourt.
Votre livre était dans la tradition de l'Académie Goncourt ?
C'est-à-dire que... quand même, je sais pas, si les frères Goncourt étaient toujours vivants, évidemment, eux, ils avaient une conception de la littérature. C'était plutôt le naturalisme. Enfin, et puis après, il y a eu Zola. Enfin, tout ça, c'était des... C'est quand même une tradition de la littérature naturaliste ou réaliste.
Comment êtes-vous venu à la littérature ? Vous avez fait des études solides, poussées ?
Oh non, justement...
Vous écrivez depuis l'âge de 19 ans, puisque le premier livre, vous l'avez écrit à 19 ans, même plus jeune peut-être.
Oui, vers 18 ans, mais...
18 ans.
C'est-à-dire que je suis venu à la littérature comme un pis-aller, parce que je m'apercevais que je pouvais pas faire... que j'étais pas très doué pour les autres, soit pour les études, soit pour un métier quelconque.
Vous n'avez pas de diplôme ?
Le baccalauréat, c'est tout. Enfin, et justement, après le baccalauréat, je me suis aperçu que je pouvais pas... les études étaient plutôt vaseuses, alors j'ai commencé à écrire pour essayer de trouver une voie.
Vous ne vous sentiez pas bien dans le milieu des étudiants ?
Non, je me suis toujours senti mal dans le milieu des étudiants parce que c'est un milieu clos et puis c'est stérilisant, parce que c'est un espèce de ghetto. C'est complètement clos et puis Ils avaient des préoccupations qui n'étaient pas les miennes, enfin.
Vous avez toujours écrit sur cette période douloureuse. Est-ce que le fait d'être juif a motivé l'intérêt que vous portiez à cette période?
Au début, c'est-à-dire au début, oui, je croyais que c'était le fait d'être juif parce que j'avais lu tous les auteurs antisémites, tous les pamphlets qui avaient paru dans les années 30 et puis après sous l'occupation.
Et certains avaient beaucoup de talent.
Alors, oui, ils avaient beaucoup de talent, alors je me sentais injurié avec beaucoup de talent et évidemment ça me faisait de la peine parce qu'il y en avait qui avaient beaucoup de talent, qui étaient très brillants. Et je sentais que c'était à moi qu'ils en voulaient. Alors, j'aurais voulu leur répliquer tout ça, mais en fait, après, je me suis aperçu que c'était plutôt un espèce de climat qui m'obsédait, un climat un peu ambigu et trouble, comme il y en avait sous l'occupation, avec des personnages qui ont profité des événements pour ressurgir. Comme dans les époques de trouble, il y a toujours des personnages bizarres qui ressurgissent.
Ça, c'est de plonger dans le passé, sans aucun doute motivé par des raisons familiales. Est-ce que votre famille a eu à souffrir de l'occupation, enfin des persécutions nazies?
Oh, non, pas spécialement, mais je sais que quand j'étais enfant, j'entendais enfin, tout au moins mon père, j'entendais des propos comme ça, ils en parlaient beaucoup, enfin, il y avait encore des souvenirs. Et puis il y avait aussi, c'était très proche de la guerre, alors il y avait, par exemple, je me rappelle que le jeudi après-midi, il y avait une émission sur le massacre d'Oradour, tous les jeudis, et j'avais écouté ça quand j'avais 5 ou 6 ans, alors. Ça m'avait frappé.
Lorsqu'on vous lit, puis lorsqu'on lit ce qu'on a écrit sur vous, on s'aperçoit que vos maîtres s'appellent Paul Morand, Louis Ferdinand Céline et Drieu La Rochelle.
Ah
Ce
oui.
serait peut-être un peu à l'opposé de vos idées.
Oui, c'est-à-dire peut-être pas Drieu, parce que non, mais Céline est mort. C'est-à-dire, c'est pas tellement leur. C'est surtout parce que c'était des gens qui s'intéressaient au style. Mais il y en a d'autres, il y a des gens comme Queneau ou Marcel Aimé.
Vous n'êtes intéressé que par le style.
Non, je trouve que le roman doit être quelque chose d'émotionnel, il faut essayer de transmettre une émotion, alors on y arrive par le style en général, alors c'est pour ça que les auteurs qui avaient une espèce de pouvoir émotionnel comme Céline ou même Queneau m'ont frappé plus que les autres.
Votre mère est absente dans votre œuvre.
Oui, elle est absente parce que.
Vous voulez la préserver de l'impureté?
Oui, parce que je veux pas tellement la mêler à toutes ces heures. Enfin, parce que c'est pas tellement. C'est plutôt assez sinistre comme climat, alors je voudrais la préserver de ce climat.
Seulement votre père est en jeu.
Oui, mais en même
C'est un
temps.
règlement de compte entre votre père et vous.
C'est pas tout à fait ça parce que
Disons une discussion avec beaucoup de tendresse.
Oui, mais en même temps. C'est pas tout à fait mon père parce que comme c'est un roman, on est obligé de concentrer les choses et de les éclairer d'une manière plus violente qu'elles ne sont dans la vie. C'est comme je crois pas que ça ait tellement de rapport avec ce que pouvait être mon père dans la vie réelle, mais c'est peut-être comme on dit, un parfum est concentré, c'est peut-être une espèce de c'est un éclairage plus vif que. Et puis une exagération, parce qu'on est toujours obligé de transformer la réalité, parce qu'autrement ce serait de l'ordre du document et ce serait plus un roman.
Votre mère est absente dans cette œuvre parce que vous, Patrick Modiano, vous avez exploré les bas-fonds
Oui.
et que votre mère, elle, n'est pas juive, si votre père l'est, et qu'elle n'avait rien à voir avec cette histoire. Donc vous êtes toujours motivé par cette question-là. Et je me demande même, vous avez écrit trois livres, ces trois livres enveloppent à peu près cette période. Le
Oui.
quatrième, vous ne vous en guérirez pas.
Oh, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un climat un peu ambigu.
L'obsession, toujours.
Oui, mais ça n'aura. C'est pas l'occupation, c'est-à-dire ça ressemble un peu à ce que pouvait être l'occupation, mais ça peut aussi ressembler à ce que pouvait être. Chaque fois qu'il y a des périodes de troubles, par exemple, j'imagine que Saïgon dans les années 51-52, ou l'Égypte du temps de Farouk, il y
C'est
avait aussi.
partout pareil.
Oui, chaque fois qu'il y a des remous, il y a toujours une société un peu bizarre qui.
Vous arrivez à faire la place entre la littérature et votre vie familiale parce que, d'accord, on essaie de retrouver votre père dans vos livres, mais vous essayez de le retrouver dans la vie.
Oui, c'est-à-dire j'ai pas. Oui, dans la vie, je l'ai pas vu depuis très longtemps, Mais en même temps, non, il n'a rien à voir avec le personnage du roi.
Non, absolument pas. Mais vous reprochez quand même beaucoup de choses à votre père.
Oh, mais c'est-à-dire que les enfants reprochent toujours des choses à leurs parents, enfin. Mais finalement, ça n'a pas tellement d'importance parce que tout ça, c'est des problèmes quotidiens qui n'ont pas tellement. Il faut essayer de les transformer. Du point de vue romanesque, il faut essayer
De les
de les
dépasser.
dépasser. Oui, pour que ce soit un roman, il faut les modifier, les éclairer d'une manière. Quelquefois, il faut truquer même les choses qui ne sont pas tout à fait comme ça dans la vie. Parce que...
Vous avez lu le livre d'Olivier Todd, L'année du crabe?
Non, je ne l'ai pas lu, mais j'ai dans les magazines, j'en ai entendu parler.
Il est également à la recherche de son père, mais lui, véritablement, il ne le cache pas, il le retrouve.
Oui, mais alors, d'après ce que j'ai cru, lui, c'est plutôt un truc... Alors, c'est purement autobiographique, lui, c'est... D'après ce que j'ai vu dans les journaux, c'est de l'ordre du journalisme. Il n'a pas... C'est les choses telles qu'elles sont, enfin... Il les a pas de trucs... Enfin, il n'y a pas eu de volonté romanesque de...
Enfin, vous avez compris, vous, Patrick Modiano, que l'occupation, c'était plus un état d'esprit qu'un
Oui.
choix politique.
Oui, c'est surtout... le fait que je ne l'ai pas vécu, c'est plutôt un espèce de climat, une espèce d'atmosphère... Et puis la lumière un peu voilée quelquefois dans les cauchemars quand on essaye d'allumer la lumière, il y a toujours une espèce de lumière voilée comme ça. Et c'est comme ça que je vois l'occupation, enfin une espèce de lumière.
Mais vous avez rassemblé beaucoup de documents, vous avez lu beaucoup.
Oui, mais ça n'influe pas tellement parce que ce qu'on peut lire, c'est des choses, soit des documents historiques, soit des... Alors, on n'a pas le, la, ça ne, il n'y a pas l'atmosphère telle que. D'ailleurs, c'est une atmosphère. Je suis sûr que l'atmosphère telle que je la vois, c'était pas celle vraiment qu'il y avait sous l'occupation. Moi, je la vois en termes comme dans une espèce de cauchemar ou dans un rêve, mais dans la réalité, ça devait être beaucoup plus quotidien. Et...
Patrick Modiano, vous avez 25 ans. Est-ce que vous êtes un jeune?
Oh ben oui. Enfin, la jeunesse déjà 25 ans, c'est. C'est un peu fini. Enfin, on entre dans l'âge adulte. Et puis, on n'est jamais assez jeune, finalement, parce qu'il y a des gens plus jeunes que moi. Enfin...
Vous êtes très près des jeunes?
Oh, bah, c'est-à-dire que...
Je n'ai pas l'impression.
Bah, c'est-à-dire qu'on ne peut... On ne peut pas être... J'ai 25 ans et c'est... J'ai 25 ans 72, alors Je suis forcément près des... Peut-être, évidemment, je parle de l'occupation, alors ça paraît bizarre pour un type de 25 ans, mais en même temps, ça ne pouvait avoir lieu qu'en 72, peut-être qu'en 50, en 50 ou en 43, les types de 20 ans n'auraient pas parlé de cette chose de cette manière-là, alors ça fait partie de l'époque en même temps.
Quels sont vos amis, des gens de votre âge?
Oh oui, des gens de mon âge, oui, mais ils n'ont pas forcément affaire avec la littérature. En général, ils ne sont pas... Ils travaillent pas dans cette branche-là.
Vous avez dit quelque part, Patrick Modiano, on ne peut pas se débarrasser de l'atavisme juif. Or, si je connais bien vos intentions, vous êtes hostile à Israël.
Bah, c'est-à-dire, je suis pas hostile à Israël, mais c'est un peu le contraire de ce qu'était le génie juif. Enfin, si on peut parler du génie juif, ou tout au moins les caractéristiques du peuple juif jusqu'à présent. À partir du moment où il y a une terre et où les juifs... sont des généraux ou des colonels, c'est un peu le contraire de ce que pouvait être le destin du peuple juif jusqu'à présent, qui était plutôt un destin d'errance et plutôt d'inquiétude, de déracinement, et surtout qui était le contraire de la violence. Enfin, il n'y avait rien à faire avec l'armée ou la violence. Enfin, c'était plutôt des gens qui... C'était le contraire de ça. C'était plutôt des gens qui étaient le contraire de la violence, enfin, c'est curieux de voir un juif général, enfin, il y a eu le capitaine Dreyfus, mais enfin, c'était une exception.
Patrick Modiano, vous avez 25 ans, vous mesurez 1m98, et vous me le disiez tout à l'heure, je suis timide, je préfère écrire, parler est une difficulté.
Bah oui, j'ai une élocution assez difficile, d'ailleurs, c'est peut-être pour ça que par compensation, je me suis mis très jeune à écrire pour corriger le peu de facilité que j'avais.
Pour vous libérer, vous aviez des choses à dire, il fallait les écrire.
Oui, comme je ne pouvais pas les dire, je les ai... Je les ai écrits parce que ça me permettait de. C'était plus long, alors on pouvait raturer, alors on pouvait arriver à une espèce de fluidité que je ne pouvais pas avoir par la parole.
Vous pourriez vivre sans littérature?
Non, c'est un peu comme une drogue. C'est ça, je ne considérais pas ça comme une carrière, c'est plutôt comme une manie ou comme une drogue. Alors si sans la littérature, je serais un peu comme un drogué qui n'a pas sa. Qui n'a pas sa drogue,
Sa piqûre.
sa piqûre.
Dans ce livre, Les Boulevards de Ceinture, qui est paru chez Gallimard, vous intéressez beaucoup aux marginaux, déclassés,
Oui.
vous explorez le monde des bas-fonds. Vous n'avez pas l'impression, Patrick Modiano, qu'il y a un autre monde qui est plus souriant?
Oui, il y a un monde qui est plus souriant, mais en même temps, ce que j'éprouve, c'est évidemment, je pourrais parler de choses plus lumineuses avec du soleil, mais ça correspond pas avec ce que j'éprouve. Alors, cette espèce de sentiment de désarroi et d'inquiétude, je ne peux le traduire que par une atmosphère
Un peu sombre.
un peu
Vous êtes
sombre.
porté par un malaise.
Oui, il y a une espèce de malaise. C'est pour ça que peut-être que l'occupation, ça m'obsède, parce que finalement, c'était la période de l'histoire de France qui est la plus louche, finalement. On n'a jamais dit la vérité, tout à fait. Puis on essaye de la rayer des manuels d'histoire ou d'en faire quelque chose d'héroïque. Alors c'est pour ça que j'ai été tout de suite attiré vers cette époque louche, ambiguë, et que je me suis inspiré de ce climat pour.
On comprend vite d'ailleurs que ce ne sont même pas les camps de concentration qui vous
Oh non!
dépassent, qui vous agacent, ce sont surtout ces certains prisonniers qui ont pu pactiser avec les bourreaux.
Oui, mais alors là, c'est un problème plus large que celui de l'occupation, parce que je me suis souvent intéressé à la collaboration, par exemple. Mais ça dépasse l'occupation, c'est un espèce d'état d'esprit, une espèce de veulerie, de lâcheté, de désarroi,
Il
qui
est
n'est.
difficile de juger aussi. Dans
Oui.
certaines conditions,
Oui,
on
c'est
peut tout
difficile.
faire. Un prisonnier peut se vendre, peut trahir.
Oui, et puis il y avait des pressions qui jouaient. Mais tout ça, c'est pas propre à l'occupation, c'est propre à tous les climats où il y a des troubles. Ça pouvait être en Algérie en 57 ou pendant la guerre de 100 ans. Enfin, c'est chaque fois qu'il y a des périodes de troubles, c'est beaucoup plus intéressant. Et du point de vue romanesque, c'est plus intéressant parce qu'il y a des choses plus prenantes que dans la vie quotidienne.
Vous êtes à la recherche de votre père et j'ai l'impression que vous voudriez être le fils de quelqu'un.
Oui, parce que d'habitude, c'était. Les fils tuaient leur père. Enfin, il y avait une rébellion contre le père, mais ça, c'était bon il y a une trentaine d'années. Mais maintenant que la figure du père est complètement effritée, où il n'y a plus d'autorité ni de valeur, ni les valeurs morales que symbolisait le père, alors c'est l'inverse qui joue. Il y a une espèce une recherche du père qui n'est plus qu'un fantôme pitoyable. Alors qu'avant, c'était quelque chose de très solide, le père.
Vous pensez qu'il faut généraliser, que tous les pères sont effrités? Moi, je connais des pères
Ah
qui
oui, il y a
sont
encore
encore de
des
vrais
pères.
pères, et il y en a beaucoup.
Oh, il y en a encore beaucoup, oui, mais alors c'est comme un peu comme les espèces préhistoriques qui subsistent encore maintenant. Ça tend à disparaître. Et puis, c'est pas une question de père, mais le père, c'était le symbole de choses qui s'effritent de plus en plus. C'était les valeurs morales, il y avait quelque chose d'exemplaire dans le père. Et puis. Il y avait une autorité et tout ça, ça s'est complètement effrité depuis.
Patrick Modiano, vous connaissez la fameuse phrase de Gide, Famille, je vous hais.
Oui, mais alors là, c'était justement Gide, il disait ça parce que lui, il était né dans une famille très structurée de la bourgeoisie française. Alors évidemment, quand son père est ingénieur dans les textiles ou tout ça, il y a une rébellion. Mais quand le père est quelqu'un de flou et de. Quand c'est un ivrogne, par exemple, qu'on va rechercher au café. Alors, il ne peut plus y avoir famille je vous hais, au contraire, il y a une espèce de tendresse qui joue. Parce que pour dire famille je vous hais,
Il faut avoir de la haine.
Oui, il faut que le père, ce soit quelqu'un de très fort, que ce soit un préfet de police ou un truc. Enfin, quelque chose qui symbolise quelque chose de très puissant pour pouvoir lui. Que ce soit une espèce de statue pour pouvoir se rebeller contre. Autrement, on donne des coups de poing dans un édredon. Enfin.
On ne frappe pas sur les faibles.
Non, et au contraire, on a une espèce de tendresse pour eux.
Vous avez de la pitié.
Oui, mais encore une fois, ça n'a rien. Je me suis inspiré de choses de ma vie, mais enfin, c'est complètement déformé, ça n'a pas tellement de rapport avec.
Patrick Modiano, vous êtes issu du désordre, tardivement, mais
Oui.
vous le ressentez toujours, ce désordre.
Oui, j'ai l'impression que je suis issu de. Il n'y a aucune racine à laquelle je puisse me raccrocher, mais je suis un peu le produit de la. J'ai toujours eu l'impression que j'étais un peu le produit de la. De l'occupation, enfin de cette période ambiguë.
Vous voudriez être enraciné.
Oh non, non, parce que non, parce que si j'étais enraciné, non. Non, mais c'est ennuyeux d'être enraciné, mais en même temps, j'éprouve un sentiment de déracinement, de désarroi.
Comment vous jugent les autres, les garçons de votre âge, vos amis? Est-ce qu'ils réagissent comme vous?
Oh, j'ai l'impression, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je traduis un peu assez maladroitement ce qu'ils éprouvent eux, mais eux, ils éprouvent ça. Alors, ça se traduit par d'autres choses, soit qu'ils choisissent l'engagement politique ou des choses comme ça, mais je crois qu'il y a le même sentiment chez eux que.
Vous êtes un interprète, mais ils n'ont pas vos motivations.
Oui, mais en même temps, c'est un peu la même chose, finalement. Mais moi, évidemment, je le vois du point de vue romanesque, tandis qu'eux, ils ne s'intéressent pas tellement à toutes ces questions-là. Ils préfèrent la politique ou la. Mais à la base, je crois qu'il y a le même.
La politique ne vous intéresse pas.
Non, parce que pour moi, la politique, c'est le royaume du mensonge et de la. On se salit toujours les. C'est quelque chose qui salit toujours les mains. Enfin.
Pourquoi voulez-vous à tout prix fuir cette époque? Parce que vous fuyez. Je suis persuadé qu'on ne vous voit
Oui.
pas beaucoup dans Paris,
Non, mais. Mais
à
en
votre
même.
table de travail.
Oui, mais cette fuite, je crois que les types de mon âge aussi, il y a une fuite chez eux, mais ça prend différentes formes. Soit un espèce d'engagement politique complètement utopique, ou bien ils fuient par la drogue, ou par la. Mais je crois qu'en général, il y a une réaction de fuite parmi les gens de ma.
En ce moment, on délaisse un peu le roman pour s'occuper seulement de politique. C'est-à-dire, dans les livres, il y a beaucoup question d'engagement politique. Alors
Oui.
j'imagine que dans le roman, c'est une impression toute particulière, il faudrait gommer toutes les préoccupations politiques.
Oui, parce que les romanciers, c'est une erreur de croire que on peut très bien traduire un malaise, même politique, mais sans mettre les points sur les i. Il suffit de créer une atmosphère, mais on croit toujours qu'il faut mettre les points sur les i et de faire. Alors il y a des gens qui ont fait des romans où la politique intervenait, mais c'est une erreur parce que il faut pas mettre les points sur les i. On peut traduire un malaise autrement que en parlant de politique.
Le style pour vous dans un roman, c'est quoi très précisément? Parce que vous êtes attiré seulement par le style.
Ben, le style, ce qui est intéressant, c'est quand le style a un pouvoir émotionnel. Moi, je ne parle pas du style, le beau style, tout ça, c'est pas tellement intéressant. Le style rhétorique, c'est pas intéressant,
Ce
mais
sont les mots.
oui, ce qui est intéressant, c'est d'avoir une phrase qui produit une musique, quelque chose de, une petite musique émotionnelle. Mais quand je parle de style, je veux pas dire le côté rhétorique.
Vous travaillez beaucoup vos phrases, vous réécrivez,
Oui, parce que j'ai aucune
vous raturez.
oui, parce que j'ai aucune facilité. Il y a des écrivains qui peuvent écrire. Des gens comme Aragon, par exemple, il paraît qu'il pouvait écrire 15 pages en 2 heures. Mais moi, c'est. Alors, il y en a d'autres qui ont des difficultés et qui n'ont aucune facilité.
Vous avez parlé de Paul Meurant, de Céline,
Oui.
de Dreux La Rochelle, vous venez de parler d'Aragon. Il y a quand même d'autres auteurs. Vous
Oh oui,
lisez
mais.
beaucoup. Ce qui est important, c'est de relire, d'ailleurs, plus que de lire.
Oh oui, il y a des auteurs. Oui, mais. Oui, il y a des tas d'autres auteurs. Il y a Raymond Queneau, et puis Marcel Aimé. Alors, je lis toujours les mêmes auteurs. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il n'y a pas de nouveaux auteurs. Depuis une vingtaine d'années, il n'y a pas eu tellement d'auteurs qui ont apparu. Enfin, ou alors, ils avaient des préoccupations différentes que celles du roman.
Enfin, la littérature est pour vous un prétexte à recherche.
Oui.
C'est votre préhistoire, comme disait quelqu'un, votre préhistoire personnelle.
Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est. Puis c'est le. Essayer de décrire un climat, une atmosphère. Parce que je pense que dans le roman, il doit y avoir un climat. Un peu comme dans les romans de Simenon, quand on parle de climat dans le roman de Simenon. Il faut qu'il y ait ça dans le roman, autrement c'est pas... Par opposition au roman d'analyse, dans la tradition française, je crois qu'au contraire, il faut qu'il y ait une atmosphère très, très dense. Alors, il faut essayer de créer ce genre de choses.
Vous en voulez au monde qui vous a fait naître en 1947?
Oh non, non, bah non, parce que ça pouvait pas être autrement. Oh non, il vaut mieux que je sois né en 47 qu'en 41 ou qu'en 1894, parce qu'après il y avait la guerre de 14. Enfin, c'est plutôt une époque privilégiée parce qu'on n'a pas tellement eu de problèmes.
Est-ce qu'un jour, Patrick Modiano, la cruauté et l'écœurement sortiront de votre œuvre? Car pour le moment, ce sont des sentiments qui la dominent.
Oui, c'est des sentiments. Mais en même temps, ce qui est difficile, c'était déjà à mon âge
À
de faire
votre
quelque.
âge, 25 ans, il faut bien le rappeler.
Oui, c'était difficile de faire quelque chose de. Peut-être que d'ici 15 ou 20 ans, les choses seront beaucoup plus. Je pourrais plus faire des choses. Avec plus d'ampleur, je pourrais écrire des choses qui auront plus d'ampleur si.
Vous y pensez déjà?
Oui, parce que chaque fois, j'ai l'impression que je veux traduire des choses, mais que je les ai. C'est comme avec une jumelle quand on n'arrive pas à avoir une image nette. Alors, chaque fois, j'ai l'impression que je passe à côté, que j'ai pas eu encore l'image nette, ou que j'ai appréhendé les choses, mais c'était encore flou. Il y avait pas, c'était pas net.
Vous voudriez écrire une grande œuvre.
Oh oui, mais.
Ambitieux?
Oh non, pas une grande œuvre, mais quelque chose qui me comble. Mais je crois que c'est difficile parce qu'on est toujours insatisfait.
Vous serez toujours insatisfait.
Oui, parce qu'on a. Si on était satisfait, on écrirait un roman, puis on arrêterait d'écrire. C'est un rêve que j'ai souvent de pouvoir écrire un truc et d'être satisfait et de ne plus jamais rien écrire après.
Patrick Modiano, vous pensez que la génération d'après-guerre,
Oui.
c'est-à-dire la vôtre, est curieuse des faits de résistance, est curieuse de tous ces malheurs que la France a connus, ou plutôt qu'elle prépare l'avenir?
Oh, moi je trouve pas qu'elle prépare tellement l'avenir parce que même quand on voit l'engagement politique dans lequel les gens de mon âge sont, ils vivent encore sur des trucs d'avant-guerre ou sur des. Ils ont des idéaux, que ce soit d'extrême gauche ou de droite, ils vivent encore sur le 19e siècle. Finalement, c'est pas une génération qui a. Je crois pas que ce sera une génération qui aura marqué le. C'est une génération qui a vécu sur le remake, soit du point de vue politique, soit même. D'ailleurs, je m'exclus pas du nom, mais ce sont des remakes de choses qui ont eu lieu soit entre les deux guerres, soit pendant la guerre.
À votre âge, avec le tempérament que vous avez, Patrick Modiano, vous pouvez vous situer à droite ou à gauche, ou la chose ne vous intéresse pas du tout.
Oh bah, je peux pas me situer politiquement parce que ça soit à gauche ou à droite, ce sont des mensonges et des. La politique, c'est le royaume du mensonge et de la. Il vaut mieux pas s'en mêler parce que c'est le mensonge perpétuel. Les hommes politiques sont des menteurs et des. Qu'ils soient de gauche ou de droite, alors ils
Vous ne
vont.
pourriez pas avoir pour ami un homme politique.
Oh, je pourrais peut-être en avoir un, mais ça m'inquiéterait toujours qu'il soit un homme politique parce que un homme politique, ça veut dire quand même que c'est quelqu'un d'extrêmement. D'extrêmement pas méprisable, parce qu'il y en a qui sont pas méprisables, mais il y a quand même quelque chose d'un peu méprisable. Parce qu'il y a quand même une ambition personnelle. Alors, ils font croire que c'est l'ambition générale, alors que finalement, c'est une simple ambition personnelle.
Vous partez du principe qu'un homme honnête, dès lors qu'il fait de la politique, devient malhonnête?
Mais c'est-à-dire qu'il ment parce qu'il parle du bien général, mais en fait, il y a une ambition personnelle. Alors, il y a déjà un mensonge initial. Et puis il ment, il peut pas faire autrement que de faire de la démagogie.
On le remarque tout de suite, Patrick Modiano, vos livres sont d'abord un acte d'accusation contre les assassins d'hier. Cela n'est pas douteux. Et on pourrait penser, même en prolongeant le débat, que vous vous attaquerez bientôt aux assassins d'aujourd'hui.
Oui, oh bah ce sont toujours les.
Les mêmes?
Les assassins se ressemblent toujours. Mais seulement dans les périodes troubles, évidemment, on les voit mieux, les assassins, parce que. Dans les périodes quotidiennes, ils sont encore camouflés, puis ils se révèlent dans les époques de désordre.
Comment expliquez-vous cela, Patrick Modiano? Vous êtes tendre, généreux, discret, modeste, et vos personnages sont ignobles.
Bah, c'est toujours la même chose. Par exemple, souvent on écrit le contraire de ce qu'on est. Par exemple, Laclos, c'était un brave père de famille, et puis il a écrit des liaisons dangereuses, et puis là, Madame d'Aulnoy qui écrivait des contes d'enfants, et c'était une horrible bonne femme. Enfin, c'est toujours là. Par compensation, on essaye d'écrire le contraire de.
C'est l'alibi ou la compensation?
Ben, on est toujours attiré par le contraire de ce qu'on est.
Vous croyez aux vies antérieures?
Oui, j'ai l'impression
À
parce que.
l'au-delà de Gabriel Marcel?
Aux vies antérieures, parce que quelquefois j'ai l'impression que j'ai vécu des situations dans des endroits que je ne connais pas, mais par la suite je les ai retrouvés et j'avais l'impression que j'avais vécu des choses dans ces endroits-là.
Vivre des choses, entendre également des musiques?
Oui, il doit y avoir des. Il y a des situations. Oui, il y a des endroits de Paris que je ne connaissais pas et où pourtant je rêvais qu'il s'était passé des choses. Puis après, je les ai retrouvées. Puis j'ai été étonné de les avoir vues en imagination, comme dans la réalité. Alors ça prouve qu'il y a.
C'est le phénomène de l'étrange ou vous allez au-delà de l'étrange?
Oh, il y a. Non, c'est. Il n'y a rien d'étrange. C'est peut-être des sentiments de. Par exemple, il y a. Des moments où j'ai l'impression que je suis dans une 15 chevaux comme il en existait pendant l'occupation avec quelqu'un à côté de moi et que cette personne m'annonce que les Américains ont débarqué et j'ai l'impression que j'ai vécu cette scène.
Mais en admettant que vous avez connu Paris dans une autre vie, quel personnage avez-vous pu être dans cette vie-là?
Ben, c'est marrant, mais j'ai l'impression que c'était un personnage assez douteux. Enfin, c'était pas quelqu'un de très net. Mais c'est simplement une impression.
Qui ressemblait à votre père?
Oh, bah lui, non, parce que tout au moins au père de mon
Oui,
livre.
bien sûr. Au père
Oui.
des boulevards de Saint-Thé. Hein.
Oui, c'était en tout cas quelqu'un qui est.
À ce Levantin.
Oui, cette espèce de personnage un peu mou. Enfin, un peu. Et quelquefois, j'ai l'impression que j'ai vécu. Que souvent, quand j'entre dans un immeuble ou tout ça, je me dis peut-être que j'y suis entré 30 ans auparavant, dans d'autres circonstances.
Patrick Modiano, on est toujours très curieux de connaître ses origines. Vous les recherchez, et vous les recherchez à tel point qu'on peut se demander si vous êtes sûr de vous.
Oui, c'est les gens qui sont pas sûrs d'eux qui recherchent leurs origines parce que les autres, ils les connaissent, ils ont des arbres généalogiques, alors il n'y a pas de problème. Ils savent d'où ils sont, d'où ils sortent.
Mais vous ne le savez pas, vous?
Ben, j'ai toujours eu l'impression que c'était extrêmement trouble.
C'est-à-dire, votre père, vous voulez bien le considérer avec tendresse, mais vous n'arrivez pas à comprendre que c'est votre père.
Oui, c'est pas. Oui, c'est quelqu'un que mon père, mais enfin, ça pourrait être aussi quelqu'un d'étranger. Enfin,
Mais dans votre livre, Les boulevards de ceinture, il n'y aurait pas pu y avoir un personnage souriant, heureux. Qui aurait fait le point à côté de murailles.
oui, qui aurait contrebalancé le. Oui, mais alors là, c'est peut-être parce que quand on est un peu trop jeune, on voit toujours les choses d'une manière un peu. C'est ou noir ou blanc, mais peut-être que par la suite. On arrive à faire un équilibre entre le noir et le gris, enfin.
Vous donnez une drôle d'opinion des journalistes parce qu'il y
Ah
a
oui.
ce fameux Murail, ce journaliste qui oscille entre le chantage.
Oui, c'est pas.
Et les fonds secrets, et qui va devenir, dans votre livre, directeur d'un hebdomadaire.
Oh,
Alors.
oui, c'est un peu. Non, mais ça, c'était. Il y avait cette catégorie de journalistes. Ça n'existe plus du tout, mais avant la guerre, il y a.
Merci.
Non, mais.
Heureusement, parce que.
Non, mais avant la guerre, parce qu'il y avait des feuilles de chantage, alors que maintenant, ça a disparu. Mais d'ailleurs, ce n'était pas des journalistes, c'était des escrocs qui publiaient des articles dans des feuilles de chantage. Mais ça n'existe plus.
Patrick Modiano, je vais parler comme vous et vous allez reconnaître vos paroles. Quelle drôle d'idée vraiment de remuer toutes ces choses mortes.
Oui, c'est.
Vous êtes jeune, vous feriez mieux de penser à l'avenir. Moi, je m'adresse à vous, mais vous vous disiez, je suis jeune, je ferais mieux de penser à l'avenir. Vous y pensez?
Bah oui, mais pas tellement parce que l'avenir n'apparaît pas sous des couleurs très très intéressantes du point de vue. Moi, parce que ce qui me préoccupe, c'est quand même le côté romanesque. Alors le présent et l'avenir, là, ça me, du point de vue romanesque, ça me paraît pas tellement efficace. Alors que le passé est toujours, du point de vue romanesque, le passé est toujours plus intéressant parce que il y a une espèce d'éclat un peu voilé du passé. Et dans un roman, c'est beaucoup plus intéressant que quand on parle du présent, parce que le présent, on ne peut en parler qu'en termes de documents ou de... C'est trop présent pour en parler d'une manière romanesque.
Votre recherche est tout à fait méritoire, je le disais tout à l'heure, vous voulez être le fils de quelqu'un, mais vous pouvez vous rassurer, on est toujours l'orphelin de quelqu'un.
Oui, c'est vrai, de toute façon, on est toujours le... Et c'est plus... Peut-être que c'est plus répandu dans les... Cette génération-là, ils sont orphelins de... Alors, ils essayent de se trouver des pères. Alors, les uns, c'est... Dans la politique, alors, c'est Mao Tse-tung ou Castro. Enfin, plus Castro. Non, mais à une époque, c'était Castro. Puis d'autres...
Et c'était chez Guevara aussi.
Oui, c'était l'oncle. Alors, dans toutes ces générations, il y a... Enfin, j'ai l'impression qu'ils essayent tous de se trouver un père... Un père idéal, parce qu'ils n'ont pas connu de...
Si vous aviez la chance de pouvoir désigner le père idéal, ce serait qui?
Oh, d'un autre côté, c'est mieux de pas avoir de pas avoir de père idéal ou pas avoir de père tout court, parce que on est écrasé autrement par le. Quand on est, c'est toujours dangereux d'être fils de quelqu'un parce qu'on est écrasé par le la personnalité du père. Ou... D'ailleurs, on voit bien les fils de père formidable. Ils ont toujours été traumatisés un peu par leur père.
Ils ont du mal à s'en sortir.
Oui, alors ils veulent faire pareil que leur père, et puis c'est moins bien, de toute façon.
À travers votre père, c'est vous-même que vous défendez, en fait, Patrick Modiano. Vous dites gardez-vous à droite, gardez-vous à gauche.
Oui.
Suis-je bien gardé?
Oui, parce qu'à la limite, cette espèce de gros poussin levantin, c'est peut-être mon propre. C'est moi que je projette dans l'image. C'est comme Dr. Jekyll and Mr. C'est peut-être moi, finalement, cette espèce de personnage.
Ignoble?
Ou tout. Oui, enfin, pas ignoble.
Je
Parce
ne
que
le
je suis,
pense pas.
non, je suis pas ignoble, mais c'est un peu le. Enfin, j'ai une espèce de tendresse pour ce personnage.
Mais lorsque vous aurez fini de tourner autour de l'image de votre père, autour des Juifs, autour de l'occupation, est-ce que vous serez un peu vous-même? Est-ce que vous serez délivré? Est-ce que vous en aurez terminé avec l'angoisse du jeune homme que vous êtes?
Oh bah, c'est-à-dire que il y aura toujours une angoisse, mais peut-être qu'elle sera traduite d'une manière plus. Oh, je crois que ce sera toujours la même chose, mais j'essaierai peut-être de faire ça d'une manière plus. Peut-être, par exemple, il n'y a pas de personnage féminin dans mes romans, alors peut-être qu'il faudrait que j'introduise des personnages. Enfin, je sais pas.
Mais il manque dans ce roman le personnage féminin,
Bah, il n'y en a pas,
vous
ouais.
l'auriez voulu? J'ai l'impression qu'il n'y avait pas sa place.
Non, il n'y avait pas sa place, puis ou alors il y a des personnages féminins, mais ce sont des femmes bizarres, un peu des caricatures. Alors peut-être que, parce qu'un roman, il faut que, enfin, dans tous les romans, il y a toujours eu un personnage féminin central. Alors peut-être qu'il n'y a pas de roman, peut-être s'il n'y a pas de personnage féminin.
Si vous l'inventez ce personnage féminin, vous aurez fait une concession peut-être?
Oui, mais en même temps, il faut essayer de le faire, parce qu'il n'y a pas de roman. Je vois pas. Il y a toujours eu un personnage de femme dans un roman. Ou alors c'était. Il y avait ou bien une ville ou bien un personnage de femme. Mais en général, il y avait toujours un personnage de femme.
Une chose m'a étonné tout à l'heure, Patrick Modiano, c'est que vous ne soyez pas, je ne dis pas étonné, surpris, comme je le suis moi-même, par ce Grand Prix de l'Académie française. Cela vous paraît non pas normal, mais tranquille.
Oh non, ça m'a surpris, parce que, comme je vous le disais, d'habitude, il le donnait à des gens. C'était pour couronner des gens qui devaient avoir, qui étaient beaucoup plus âgés que moi, puis c'était pour couronner une œuvre. Alors là, ça m'a surpris, et je suis très content de l'avoir eu, mais en même temps, ça peut pas influer sur les livres que je peux écrire par la suite, parce que même s'il n'y avait pas eu ce prix, ça aurait été toujours la même chose, finalement.
Vous avez 25 ans aujourd'hui, il n'est pas interdit de penser qu'à 70 ans, vous serez jeune.
Oui, peut-être que je me pencherai sur ce qui s'était passé en 72, parce que dans 30 ans, ce qui s'est passé en 72, ça prendra une dimension romanesque, parce qu'il y aura le temps qui sera passé par-dessus.
Hier, un de mes amis me disait qu'avec Patrick Modiano, on trouvait une graine de très grand romancier. Un climat, un tempérament, je crois que vous l'avez, vous êtes fait pour la grande œuvre. Vous êtes condamné à cela.
Oh, ça, je. Ça, je.
Triste.
J'y crois pas, oui.
Beau et triste.
Oui, mais ça, la grande œuvre, je crois pas, parce qu'il y en a. C'est des graines, mais quelquefois, les graines ne.
Poussent mal.
Ou elles poussent pas. Enfin, il y a eu tellement d'exemples dans le. Dans la littérature des jeunes espoirs qui s'effondraient au bout de.
Mais vous ne voulez pas vous effondrer, vous.
Mais non, mais on sait jamais, parce qu'il y a des moments où on est. On devient. On sait plus quoi. On n'arrive plus à écrire. Quelquefois, c'est très. C'est très fugace, le. Et puis il faut encore y croire, peut-être que. Il y a des moments où on n'y croit plus. On croit plus. Puis c'est une époque où le roman ne joue pas un très grand rôle, alors on peut se décourager, finalement. Très
Votre vite. Hantise, c'est et si je ne pouvais plus écrire un jour.
Oui, ou si j'avais plus envie d'écrire. Parce que ça peut arriver, finalement.
Envie encore, vous l'auriez décidé. Mais impossibilité d'écrire, ça serait grave.
Oui, et même de ne plus. De ne plus croire à la. De ne plus croire à ce genre de choses, parce que. De ne plus croire à la littérature ou des trucs. Ça peut arriver.
Patrick Modiano, je dois vous dire très sincèrement qu'on téléphone beaucoup à votre sujet. Une dame disait à l'instant je connais son œuvre, toute son œuvre. Je le félicite pour cette modestie. Et je suis content qu'il ait eu le Grand Prix du roman de l'Académie française et pas du tout le Goncourt, car le Grand Prix de l'Académie française est réservé aux initiés. Et le Goncourt, il y a déjà trop de vulgarisation. Au bout du chemin.
Ben, elle est gentille.
Est-ce qu'il y a chez vous cette nécessité intérieure d'écrire?
Oui, c'est plutôt le.
L'exorcisme.
Oui, et puis le, c'est parce que, étant donné que devant la capacité de faire autre chose, forcément, on est. C'est la seule chose que je sais, enfin que je peux faire, tout au moins.
J'ai lu quelque part. Vous allez me donner la réponse tout de suite.
Oui.
Il y a des juifs antisémites, Modiano et de ceux-là.
Ah ben non, ça. C'est pas possible d'être. Les juifs antisémites, oui.
Non, c'est. Je vous donne l'occasion de vous expliquer.
Ah ben c'est difficile d'être un juif antisémite. C'est pas possible. Ou alors, oui, alors ils sont. Ce sont des. C'est de l'ordre de la. De la folie, parce que. Alors ils ont plus qu'à se tirer une balle de revolver dans la tête. Parce qu'alors, s'ils vont jusqu'au bout, il faut qu'ils se suppriment.
Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il n'y a pas assez de place pour les jeunes, à la radio, à la télévision, dans les affaires? Vous avez 25 ans, vous avez fait votre place tout seul.
Oh, je crois
pas.
Une
affaire de mérite? Une affaire d'âge?
Oh non, là, je compte beaucoup, parce qu'on est beaucoup plus indulgent avec les gens qui sont. Depuis. D'ailleurs, c'est depuis l'après-guerre. La jeunesse a joué un grand rôle, a commencé à jouer un grand rôle dans les régimes. On a commencé à s'intéresser à la jeunesse dans les régimes Mussolini et puis les chantiers de Pétain, tout ça. Puis alors après, c'est devenu.
On a magnifié la jeunesse.
Oui, on a magnifié la jeunesse. Puis ça a continué. Alors on est plus indulgent avec.
Il ne faut pas être démagogue.
Non, mais on croit toujours. Et puis on croit que la jeunesse porte en elle l'espérance. Alors on lui fait plus que. Mais en fait, quelquefois, c'est une illusion. Enfin, on essaye de se raccrocher à la jeunesse parce que. On se dit qu'il y a encore de l'espoir quand quelqu'un est jeune.
Enfin, vous êtes-vous un jeune homme installé dans la littérature? Est-ce qu'il vous manque quelque chose, Patrick Modiano?
Oh, non.
Vous avez tout.
C'est-à-dire, il me manque de faire un livre qui me satisfasse entièrement.
Vous n'êtes pas encore content?
Non, ça alors, non. Non, et d'ailleurs, je me demande si on peut. Parce que si on était vraiment content, on s'arrêterait d'écrire, finalement.
Rappelez-vous votre livre, La place de l'étoile. Vous n'aviez pas 20 ans. Vous aviez 20 ans et il y avait un exergue, une histoire juive.
Oui.
Ça commençait ainsi. C'était en juin 1942. Un officier allemand s'avance vers un jeune homme et dit « Pardon, monsieur, où se trouve la place de l'étoile ?» Le jeune homme le regarde. Désigne le côté gauche de sa poitrine. Et c'est tout. Je crois que
oui,
cela marque toute votre vie.
Oui, c'est un peu. Et puis, c'est aussi. C'est pas simplement l'étoile jaune du juif, mais c'est aussi la place du cœur. C'est général. Enfin, c'est la souffrance, mais pas forcément le truc juif. La souffrance en général.
C'est général et c'est généreux.
Généreux, oui. Enfin, je sais pas.
Merci, Patrick Modiano.